Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Une série consacrée sur les adolescents et le cyberharcèlement. Je reçois cette semaine pour intervenant un conférencier, thérapeute, auteur d'un livre intitulé « Agressions sexuelles et secrets de douloureux ». C'est Jean-Louis Lafont. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Et un site, on peut retrouver donc plein d'informations
tout
très
fait.
Précieuses, donc des clés aussi pour les parents et pour les adolescents, sur www.jeanlouislafont.com.
Exact.
Voilà. Alors on y va, premier entretien, dans ces premières minutes, vous allez un peu redéfinir ce terme de cyberharcèlement, Jean-Louis.
Avant de parler de cyberharcèlement, d'abord merci de votre invitation. Je voudrais parler du mot juste harcèlement. Prenons l'exemple du harcèlement verbal. Les attaques se font surtout de la part de garçons, du reste, qui sont plus promptes à être critiques que sur les filles. Et donc les attaques se font surtout sur l'aspect physique. Pour les garçons, par exemple, on va se moquer des gros ou des trop maigres, des trop petits ou des trop grands. On va se moquer d'un garçon qu'on va juger efféminé, par exemple, ou simplement un qui a un bégaiement ou qui a la moindre faiblesse, en fait, fait que tout à coup, un ado peut se trouver le bouc émissaire. Pour les filles, elles ne sont pas épargnées non plus. On met en avant si elles sont trop petites ou trop grosses, si elles sont plates ou si elles ont une grosse poitrine. Et il y a tout un tas de mots et expressions qui vont être désagréables, qui vont être dits. La victime se fait par exemple voler sa trousse, déchirer ses vêtements, insulter, voire menacer. Donc, le moindre signe de différence peut-être un objet de, je dirais, entre guillemets, de persécution.
Et de moquerie aussi.
Hein. Et de moquerie, ouais. Bien évidemment. Mmh. Donc, en résumé, ce qu'il faut savoir concernant le harcèlement, c'est que ce n'est pas un événement isolé. En général, il faut comprendre qu'il s'agit d'une action répétée avec une intention de nuire. Donc, c'est fait par un individu ou un groupe, au moyen aussi, donc, et c'est là que vient le mot cyberharcèlement, l'intrusion d'Internet. Avec Internet, l'explosion d'Internet dans les années 90, on a eu un accès gratuit à tout, entre autres à des informations, et de ce point de vue-là, ça a été formidable, mais aussi à la pornographie, qui a tout changé.
Et là, donc, quand vous évoquez aussi l'arrivée d'Internet, c'est aussi l'arrivée aujourd'hui, puisqu'on est au cœur du sujet et au cœur aussi des adolescents, l'arrivée aussi de ce téléphone portable qui donne accès, finalement,
voilà.
Et ouvre à toutes les portes.
Mais en fait, oui, il ouvre les meilleurs et les pires. Mais en fait, si vous voulez, à l'origine, le téléphone à ceci, c'est un objet de lien social, puisqu'il fait la connexion. À l'origine, par exemple, pour les parents, ils sont très contents de donner le téléphone à leurs enfants, parce qu'ils peuvent l'utiliser pour savoir si leur enfant est bien arrivé à destination.
Donc pour rassurer, hein,
voilà,
rassurer les parents.
Voilà, c'est le côté,
oui.
Exactement.
Oui, ça, c'est le bon côté.
Exactement,
hein,
ça, c'est le côté rassurant. Tout cela, on va dire, c'est tranquillisant pour les enfants. Et il peut créer du lien social. Mais, avec Internet, c'est aussi une arme redoutable. Et donc là, je vais terminer cette petite intro de nos émissions par une question. Mais avant, par exemple, il est courant que les enfants soient martyrisés, le mot n'est pas faible, par des vidéos qui peuvent être diffusées sur ou leur téléphone portable ou sur ceux que leur obligent à voir quelquefois les copains à la cour de récréation.
Donc vous pensez à des photos volées ?
Non, ça c'est autre chose.
Non, c'est autre chose.
En fait, il s'agit par exemple de faire voir à un copain des photos d'accidents mortels où on voit des corps piétinés par des camions, des combats de chiens où les animaux sont déchiquetés. Il y a des scènes, des vidéos qui sont en accès gratuit et facile sur YouTube où par exemple, il y a des scènes de zoophilie, des décapitations de victimes, etc., etc. Sauf que ces vidéos ont un impact sur le cœur, les pensées et l'esprit de ces jeunes-là. Et donc beaucoup rentrent à la maison et se mettent à faire des cauchemars où on peut avoir des troubles de l'attention ou d'autres signes dont on aura l'occasion, comme par exemple les cauchemars, mais on aura l'occasion de parler en détail un peu plus loin de ces séquelles. Mais certains, il faut retenir, certains vont en rester marqués fortement, surtout si les parents ne sont pas attentifs au comportement de leur ado et ne vérifient pas ce qu'ils voient, entendent, sont victimes ou témoins à travers ces téléphones portables.
Oui, c'est-à-dire que ce qu'on peut entendre aussi en tant qu'auditeur et parent, c'est que le parent doit être vigilant et vérifier un peu le portable, l'historique de son ado.
Alors ça, c'est vrai, mais je vais poser une question générique à chacun de nous. On peut se la poser à nous, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent. Et donc ma question est, est-ce que vous savez exactement ce que vos enfants regardent sur leur téléphone portable? Ce qu'ils font voir à d'autres ou ce qu'on leur fait voir, contraint et forcé quelquefois? Parce que certains regardent des vidéos alors qu'ils n'ont pas de téléphone. Mais ils sont dans une cour de récréation. Mais il y a des groupes humains et ils ont envie de faire comme tout le monde ou veulent rejoindre un groupe. Et quelqu'un va leur dire, bah, écoute, allez, t'es dégonflé, tu peux bien regarder, tu verras, c'est rigolo. Et tout à coup, il voit une scène monstrueuse. Et le gamin, il rentre à la maison. Donc la question que je pose à chaque parent et à chaque adulte, est-ce que vous savez exactement ce que vos enfants voient sur leur téléphone portable ou sur les téléphones portables de leurs copains dans la cour de récréation?
Alors, c'est la question que je vous renvoie à vous-même, Jean-Louis Lafont. Je rappelle que vous êtes thérapeute et conférencier et que vous vous intéressez particulièrement aussi à tous ces sujets de harcèlement, de cyberharcèlement, avec un souci aussi pour tous ces jeunes qui se laissent prendre aussi. Et derrière, au fond, on peut entendre beaucoup de souffrance.
Ah mais tout à fait.
Parce qu'on se laisse prendre. Il y a ce phénomène de groupe aussi que vous soulignez.
La question...
Les parents peuvent aussi être eux-mêmes dépassés par ce phénomène extérieur, et extérieur parfois à l'école, du groupe.
Je ne dis pas, mais il y a deux mondes. Il y a un monde des ados ou des enfants, et il y a un monde des adultes. Que je sache, ce sont les adultes qui offrent les téléphones. Donc en tant que parents ou grands-parents, ou si c'est les enseignants, c'est à nous de veiller, je ne dirais pas de surveiller, mais au moins de veiller sur.
Donc responsabilité des parents, responsabilité de l'adulte,
des
de
adultes,
veiller.
Ah oui, toujours.
C'est ça.
Parce que si on donne un outil, vous savez, la question qui va se poser, c'est qui aide les ados à gérer cet outil? Dans la Bible, il y a un verset que j'aime bien dans la Bible, c'est « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Eh bien, on pourrait faire une analogie avec le téléphone.
On reste avec...
Comment gérer ça?
Voilà, et on reste avec cette question du jour, Jean-Louis Lafont. On peut retrouver plein d'informations sur votre site, plein de vidéos. Je rappelle donc le site, c'est www.jeanlouislafont, tout en minuscule, un seul F et un seul T.com. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour la suite de ce programme dans cette série autour des adolescents et du cyberharcèlement. À demain, Jean-Louis Lafont.
Merci.